leur dire ouais, vous voulez pas que je vous fasse descendre du train, qu'est-ce que vous foutez? Ils déplient leur canne et il y en a même qui prennent l'escalier, ils le connaissent tellement bien qu'ils le prennent sans la canne. Elle est pliée en trois. Hein. Ils n'ont pas de chien, rien. Et c'est des gens qui sont absolument insolents. Ben, moi, je trouve que c'est mieux de former les gamins et les aveugles et les sourds et les autistes à être insolents qu'à être là des victimes qui seraient. On serait obligé de à qui on foutrait les attelles comme le président Schreiber, le père du président Schreiber voulait faire ça, ou la comtesse de Ségur, pour que les enfants se tiennent bien à table. Ils avaient inventé des chaises avec un pic derrière et puis une courroie pour tenir la tête droite. Donc je vous dis, si quelqu'un se tient pas bien, qu'est-ce qu'on peut lire? C'est ça la question, c'est pas la question maintenant de se tenir bien, se tenir pas bien. Non, ce qui est intéressant, c'est la tenue. Et ce mot de tenue, pour moi, c'est la question de la tenue. Le nœud tient, vous voyez. Mais c'est complètement... Le nœud, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui tient. La chaîne borroméenne, c'est quelque chose qui tient. Mais vous pouvez le froisser, ça reste toujours une chaîne borroméenne. Alors que si vous prenez la Joconde, ça c'est une remarque de Lacan, vous froissez la Joconde, comme disait le petit Hans hein, avec la girafe. Lui, il dit, on peut froisser la petite girafe en papier, qui est dessinée sur le papier. C'est parce que la grande girafe, la maman, on ne peut pas s'asseoir dessus. Alors que là, on peut s'asseoir dessus. Faut donner les raisons pourquoi. C'est-à-dire que le nœud, la chaîne, ça reste la même chaîne même si vous la froissez. C'est pas pareil que la Joconde. Si vous avez envie de vous asseoir sur la Joconde, vous pouvez froisser la Joconde. Mais c'est des choses différentes. Donc c'est pas de la représentation. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce qui fait que ça tient ou ça tient pas? Il y a des trucs qui cassent la gueule et des trucs qui tiennent. Voilà. Moi, à mon avis, c'est le seul critère de l'effectivité. Construisez des trucs et faire une analyse, c'est construire quelque chose qui tient et qui, grâce à ça, permet qu'on tienne quoi, à peu près entre la naissance et le trépas, entre la débilité du nourrisson et l'Alzheimer qu'on nous promet. Je pense qu'on sera moins Alzheimer si on tient mieux. Du côté lecture, du côté, vous voyez... exercice de la parole. Le problème, c'est qu'on a oublié ça, puisque tout le monde pense que la parole, c'est du vent. Alors, il y a qu'à regarder la dégénérescence des neurones. Et vous avez vu qu'on a trouvé que... vous avez vu ça, les mecs ont trouvé qu'il y a un médicament qui soigne l'Alzheimer chez les souris, enfin l'équivalent de la dégénérescence des neurones chez les souris, qui est un médicament qui soigne, réputé, créé pour soigner le cancer. Bon. Et du coup, les biologistes se sont précipités à dire l'Alzheimer, c'est une infection. Alors, eh ben oui, mais réfléchissez bien que Lacan, il nous a dit depuis très longtemps que la parole est un parasite. Alors, je vous pose la question, exercice d'effectivité. Quelle différence y a-t-il entre l'infection et le parasite? Quel est le rapport qu'il y a entre le parasite et l'infection? C'est intéressant comme question. Non? Une infection bactériologique, voilà. Qu'est-ce qu'il y a avec les bactéries? Est-ce que c'est pareil qu'avec les virus? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une infection? Qu'est-ce que c'est qu'un parasitage? Vous voyez? Bon. Puisque ça rentre dans le corps par les oreilles. Donc le trauma, c'est une affaire d'oreille. Et l'autiste, c'est quelqu'un qui est justement quelqu'un qui se rend très bien compte que l'énonciation existe, la fonction phallique, et qui ne veut pas rentrer dans le jeu du dommage. C'est parce que justement, il a été élevé par les paranoïaques. Bon, mais je ne vais pas accabler mes parents d'autistes. C'est déjà fait largement. Et puis alors, on a dit relisez l'enfant arriéré et sa mère, et puis regardez si ça commence à vieillir. Moi, je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ça. Mais par contre, Cyrulnik, c'est un escroc. La résilience, le journaliste qui titre enfin un psy qui redonne confiance aux parents ou aux mamans. Bon, c'est quand même. Alors, on félicite Cyrulnik, mais c'est un escroc. Remplacer le désir par la résilience. Par un phénomène éthologique qui existe. C'est quand même une escroquerie monumentale, parce que ça veut dire que c'est le tombeau du désir, donc de la lecture, donc du freudisme. Et c'est bien ça dont il est question avec cette histoire d'autisme. Hein. Vous avez vu, première fois qu'un organisme officiel, bon, qui n'a pas de pouvoirs spéciaux, déclare que la psychanalyse, c'est du pipeau. Hein. Bon. Alors, moi, je veux bien que la psychanalyse, c'est du pipeau, parce que c'est du sang. Mais il y a des semblants qui ont des effets, et qu'est-ce qu'on fait de ce semblant, quoi, hein? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que ça nous fait marrer? Ben justement, le rire, ça, c'est un effet du semblant. Vous voyez ça? Les mecs, ils ont beau rire que la parole, c'est du vent, ça les a, à un moment donné, ça les a fait se lever, et puis ils sont tous partis. Hein? Vous voyez, c'est pas sans effet, la parole. Bon, il faut mettre le paquet des choses pour arriver à ce que certains crétins s'aperçoivent que ça a des conséquences immédiates. Tu ne sais pas les conséquences immédiates les plus importantes. L'important, c'est de se rendre compte de, justement, que c'est la question de faveur. Qu'est-ce que ça favorise à long terme? Quel chemin ça peut faire? Et donc, moi, je vous propose qu'entre le signifiant qui est du côté des oreilles et la lettre qui est du côté du champ scopique, ces deux phonèmes, la langue, elle a deux réalisations. Elle se réalise principalement dans la parole et elle se réalise dans l'écrit. Même quand une langue n'est pas écrite, rien n'empêche qu'un jour elle soit écrite par les locuteurs de cette langue. Une langue a deux réalisations. On dit que c'est la même langue alors que ce sont deux langues différentes. On n'écrit pas la même langue qu'on parle. Dans ces deux inerties, il y a quand la structure de langage, c'est ce principe d'inertie, posture galiléenne. Et dans cette posture galiléenne, il nous dit qu'est-ce que c'est que l'inertie? Il y a une inertie différente dans la parole et dans l'écrit. Vous voulez savoir ce que c'est que cette inertie? Qu'est-ce qu'il nous dit? Faites un exercice de maths. Faites un petit exercice de mathématiques. Vous allez voir. C'est pas la même chose, l'inertie de la parole et l'inertie de l'écrit. Bon. Moi, je peux vous commenter ça. Je peux lire Euclide, les éléments d'Euclide, sans rien comprendre à la civilisation grecque, sans connaître le grec. Je vous dis, moi, j'ai même lu la résolution des polynômes de second degré en chinois, chez Larose et Maison Neuve, là, près de la rue Soufflot, et bien je vous promets que avec un peu d'attention, si vous savez résoudre les équations avec le discriminant, ben vous retrouvez toutes les étapes formelles, alors on va dire formelles, moi je déteste ce mot de formelle, écrite, c'est pas formel, c'est pas des formes, c'est des lettres, c'est à lire, c'est pas à reconnaître.
En chinois.
Le texte, il y a un texte chinois, mais moi je ne lis pas le chinois, mais je vois que toute la partie mathématique, hein, les polynômes, vous voyez, ils les écrivent comme ça, regardez. Voilà, un polynôme du troisième degré, hein, vous avez comme ça. Vous avez ici, vous allez avoir 1, ici, vous allez avoir 1, ici, vous allez avoir 2, je ne sais pas comment ils écrivent le 4. Et, bon, mais vous avez, les chiffres viennent dans des cases, et les cases, dans l'ordre, représentent les puissances de la variable du polynôme. Et ils n'emploient pas le mode d'écriture de Viète, ni de Descartes, parce que c'est Viète et Descartes qui ont inventé ça, notre écriture du polynôme. Mais voilà, bon, on peut lire, c'est pas reconnaître des formes, c'est rentrer dans un processus qui mérite qu'on l'étudie encore. Moi, je commence à faire j'ai des éléments pour une théorie de l'écriture, j'essaye de l'expliquer, de l'exposer un petit peu. Je pense que ça, c'est un travail qui devrait être un travail collectif, c'est un travail discursif, il faut en discuter, et il y a beaucoup de choses à faire, parce que c'est très... Bon, les lettres, c'est pas les lettres de l'alphabet, voilà ce que je veux ajouter à ça. Hein, on est bien d'accord,
Jean-Jacques,
non? C'est pas l'alphabet, c'est l'écrit, même ni l'algèbre, les lettres d'alphabet et d'algèbre sont des lettres, l'alphabet a un prestige extraordinaire à cause de la numération par position, c'est-à-dire à cause des polynômes, dans l'ère occidentale. Mais les Chinois le connaissaient aussi, ils n'ont pas développé. Donc, ça, c'est ce que raconte Beaufret. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont développé? Grâce à la philosophie grecque, mais elle joue le rôle d'un frein. Car, puisque l'escansion du développement de la philosophie telle que le décrit Hegel ou Kogel, vous voyez, vous pouvez parfaitement suivre l'escansion du développement des mathématiques. Hein, vous noterez quand même que Aristote est contemporain d'Euclide, que ça stagne pendant quand même plusieurs siècles, et que tout à coup, Beaufret, il se pose la question, il dit, il a dû se passer quelque chose quand même, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Descartes, il va faire une nouvelle philosophie, deuxième tour de la métaphysique occidentale, c'est plus Dieu mais l'homme, c'est plus la théologie mais l'anthropologie qui est la science majeure, hein, c'est plus les curés, c'est les flics, comme ça que ça s'appelle l'anthropologie. Et vous voyez que qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle mathématique. Donc c'est bien la philosophie, elle a stimulé les mathématiques, par ces questions. Mais le Cogève, il continue à dire Thalès, c'est le premier des philosophes, hein, qui est perdu dans les brumes, on ne sait pas très bien ce que c'était, mais c'est Thalès. Pourquoi ? Ben, Beaufray l'explique très bien. Les Grecs, ils avaient tout à fait la notion que Thalès, qui a appris ce que c'était que le nombre en Égypte, mais qui par contre leur a montré comment, en restant sur le sol, on peut mesurer la taille des pyramides grâce au soleil, en s'allongeant par terre, en prenant son propre corps comme gabarit, hein, et en calculant sur les angles en fonction du soleil, il arrive à calculer la hauteur de la pyramide. Donc, Thalès, il revient, et bien, qu'est-ce qu'on dit de Thalès ? On dit, c'est quelle belle philosophie. Le type, il a appris des Égyptiens le nom, il leur a montré un truc pratique que les marins peuvent en connaître, les architectes. Et puis, et ben, les Grecs, ils disent, c'est de la belle philosophie. Donc la philosophie, elle est, il y a un moment comme ça, donc, il y a très, très très, c'est très loin, mais elle est liée justement à la mathématique, et la mathématique est liée à la philosophie. Ça donne quelque chose qui a produit cette chose extraordinaire que nous subissons comme la vermine, qui s'appelle l'industrialisation, à la fin, aujourd'hui, bon, et le monde capitaliste, le monétarisme, tout ça c'est lié à des mathématiques. Et ça détruit le monde, parce que nous sommes les vecteurs qui faisons rentrer cette lettre dans le monde. Et ça a un facteur destructeur. Parce que le réel, c'est-à-dire ce qui ne peut pas s'écrire, il a des conséquences. Il résonne dans le reste du texte, même qui peut s'écrire. Donc ça veut dire que ça nous engage à une responsabilité. C'est exactement ce que disait Eschtein. Alors, nous sommes depuis devant ce fait que la philosophie doit quelque chose aux mathématiques, et les mathématiques doivent quelque chose à la philosophie. Mais il y a aussi ce frein, ces préjugés. Et les philosophes, les professeurs de philosophie ne supportent pas que la mathématique ne soit plus sous tutelle. Elle n'est plus sous tutelle depuis Cantor. Voilà une autre occasion de voir qu'il y a une rupture qui se produit entre le sexe et le savoir. Et ça, ils ne supportent pas parce que la philosophie, la scansion hegelienne l'a fait, c'est fini, et les mathématiques, elles s'émancipent. Et en s'émancipant, elles produisent un truc qui fait que maintenant d'aller toucher les fesses d'une petite fille ou d'un petit garçon, c'est très con. On vous dit ça très mal, on en fait une psychose sur la pédophilie. Vraiment, comme dirait le pape, ça fait longtemps que le pouvoir, on le savait. Bon, maintenant, vous avez vu, il a créé une association pour la protection de l'enfance. Bon, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est pas la pédophilie qui est en cause, c'est les fous. Parce qu'il y a une différence entre être pédophile. Moi j'en sais quelque chose. Moi j'adore mes enfants. Alors je suis sûrement pédophile. Parce que je m'en cache pas. J'adore mes enfants. Et les enfants des autres me font chier.
Oui, les pédophiles, uniquement les enfants des autres.
Ah oui, non mais d'accord, mais c'est pourquoi c'est pas de la pédophilie. C'est quand même une fixation à un objet qui avait l'âge que j'avais quand j'ai découvert que ma mère, elle n'avait pas de pénis. Non ? Donc c'est ça la pédophilie. C'est le mode d'entrée, c'est un des modes d'entrée dans l'homosexualité. Il y a même un curé du Vatican qui est allé au Brésil et qui a commencé à dire ça. Les psychanalystes disent que la pédophilie, c'est jamais que l'homosexualité. Oh, il y a eu une tollée en Europe, ça a été un tollé en Brésil, ils sont plus aimés. Et les mecs qui ont lu ça dans le journal en Europe, ils ont commencé à dire, ouais, ça, salaud de curé, le Vatican horrible et tout ça. Ils s'étaient renseignés à une bonne source, à mon avis. Vous voyez ? Parce que la question, c'est que les symptômes, justement, ce n'est pas des maladies. Il n'y a pas de mauvais symptômes et de bons symptômes. Mais le problème, c'est qu'il y a des fous. Il y a des gens, je dirais, mal élevés. Moi, les fous, je les appelle mal élevés et qui ont de mauvaises fréquentations. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? C'est le fou, c'est la méconnaissance. C'est-à-dire, il faut quand même être rempli de méconnaissance pour ne pas reconnaître, hein, que c'est pas spécialement souhaitable, parce que c'est pas parce que peut avoir des... Alors, comme on dit aujourd'hui, d'avoir des fantasmes, c'est vraiment une horreur. C'est pas des fantasmes, c'est des fétiches. Ils appellent fantasmes, c'est des fétiches. Les fantasmes, c'est autre chose. On a des fantasmes. Le fantasme, justement, ça, c'est un fantasme. Vous voyez, là, je suis en train de vous raconter, vous dessiner, écrire et lire dans la logique du fantasme. Bon. C'est les fétiches. On peut avoir des fétiches, bien sûr, il faut avoir des fétiches. Regardez, Lacan, il va même jusqu'à dire le père Hein, il mérite notre amour et notre considération si son désir est perversement orienté, c'est-à-dire fait d'une femme. Fétiche, hein, c'est bien un substitut du phallus. Non, mais écoutez, pourquoi on ne pousse pas le raisonnement plus loin? Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à commenter ces choses, hein? Donc le problème, il est que, par contre, le fou qui croit que parce qu'il a telle ou telle idée qui lui passe dans le ciboulot, je ne sais pas où, hein, et qu'il croit qu'il est un somnambule et qu'il vit comme un somnambule, ce qu'il faudrait lui apprendre, c'est qu'il ne vit pas comme un somnambule, il est responsable de ce qu'il fait aussi, et que dans la cigarette, même c'est la condition de départ. Alors je viens de lire un article dans lequel les mecs ils disent que c'est les mecs ils n'en font pas une condition des entretiens préliminaires de la question de la folie et de la responsabilité, comme Lacan l'explique dans les propos sur la causalité psychique. Qu'est-ce qu'ils font? Les mecs ils sont en train de dire qu'il y a des médecins qui découvrent qu'il faudrait faire des tests et des enquêtes avant l'analyse pour voir si le type est fou ou pas fou. Mais ça fait partie du boulot, ça, parce que vous n'avez aucune garantie. L'analyste aussi, on lui demande comme analysant de ne pas être fou. Hein. Mais lui, il est analysant, qui doit même faire plus, il doit avoir poussé son analyse assez loin, bon, pour pouvoir occuper la position. Bon, mais ça regarde que lui, hein. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de truc, exclut tout ça. Hein. Celui qui a des analysants est analyste. À charge pour lui, voilà. C'est ça qui emmerde tout le monde chez les avocats américains et leurs émules. Hein, c'est qu'on n'a plus de parole, plus de considération, pour rien du symbolique. On veut que tout soit écrit noir sur blanc. Et du coup, ça vous donne quoi? Ben, ça vous donne une gabegie totale, parce qu'il y a des trucs. On n'est pas obligé de se considérer comme un cas intéressant, comme l'homme au loup ou l'homme au rat. Et d'avoir des idées, d'avoir des goûts, d'avoir des tendances, d'avoir tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai des goûts, je les affirme, et je dis, voilà, j'aime le camembert, mais surtout pour l'évêque. Vous voyez? Et je vous emmerde. Mais je ne vais pas emmerder tout le monde avec le pour l'évêque. Quand je suis à Buenos Aires, je vous promets que je passe 2 mois, 3 mois sans manger de pour l'évêque, et je ne me porte pas plus mal. Vous voyez? C'est ça qu'il faudrait dire aux gens. C'est que c'est très... Au contraire, affirmez vos goûts, hein. Si vous aimez, je ne sais pas moi, je ne veux pas devenir scatologique, mais hein, vous n'avez qu'à sublimer comme urologue si vous aimez ça. Mais je ne vois pas de jugement qui viendrait de la psychanalyse pour dire que ceci est bien ou ceci n'est pas bien. Il y a quelque chose qui est rédhibitoire, c'est la causalité de la folie, la belle âme. Et Lacan nous dit, si vous voulez savoir ce que c'est, là, la belle âme, c'est pas faire un exercice de mathématiques, c'est... Lisez la phénoménologie de l'esprit de Hegel, c'est une nomenclature de belle âme, hein, le grand traité de la folie. Lisez ça, et comme ça vous serez un peu au courant. Et lui, il prend comme exemple le misanthrope. Bon. Alors, voilà la pédophilie par exemple, vous comprenez, mais c'est vrai de tout et de n'importe quel mot du discours analytique. C'est pas des choses qui sont bonnes ou mauvaises. Ce qu'il faut mieux dire, c'est comme les Végétarosses. Les animaux et les plantes dans les mythes, c'est bon à penser, c'est pas bon à manger. Dans les mythes. Bon. Et les mots et les noms des parties du corps et tout ça, c'est bon à penser, c'est bon à lire, à écrire, mais pas à manger ou à déjeter. Bon. Et en plus, bon, c'est vrai qu'on a un lien, on va finir bientôt, on a un lien évident avec le déchet. Et là, moi, c'est la dernière petite découverte que j'ai faite, petite. Hein. Je vous dis, Lacan, lisez le chapitre du mois de décembre de l'identification, 1962. Hein. Vous allez voir que Lacan n'arrive pas à le dire, et quand il rentre en janvier, il est fâché. Mais qu'est-ce qu'il ne dit pas? Il est très fâché, et même il dira plus tard que c'est plutôt bon quand on est fâché, après son séminaire, après un cours, après un exposé. Il faut mieux sortir fâché parce que ça veut dire qu'on n'est pas loin d'avoir trouvé quelque chose. Et on n'est pas obligé de le trouver au moment où on parle. Mais si on parle, c'est l'occasion peut-être de se rendre compte qu'on ne dit pas qu'on dérape, que c'est l'embrouille, que c'est pas facile, que c'est toujours on fait des lapsus, on se trompe. C'est comme dans ces dessins, vous voyez, on fait des erreurs. Bon, il faut arrêter de croire que les erreurs sont nocives. Les erreurs. C'est très bon, c'est des bonnes fréquentations, les erreurs. Ce qui est mauvais comme fréquentation, c'est les cons. Mais c'est pas les erreurs. Les erreurs, surtout les siennes, c'est très très bon. C'est comme ça qu'on apprend. Et bien, vous voyez, moi, c'est ça que j'ai eu du mal à comprendre pendant très, très longtemps, jusqu'en 85. J'arrivais aux 47 ans. Et j'ai réussi à résoudre ce symptôme qui était mien. C'est que je ne comprenais pas pourquoi, justement, on faisait des cahiers des devoirs qui devaient être bien propres. Moi, j'étais incapable de faire un devoir propre. Je faisais toujours des taches partout, il y avait plein de ratures, tout ça. Parce que j'ai toujours pensé qu'il faut être dans la déjection pour pouvoir penser et pour pouvoir trouver. En mathématiques, si vous ne faites pas du brouillon, vous ne pouvez pas trouver. Il faut gâcher du papier. Il faut s'arrêter à un moment. Donc, qu'est-ce que c'est que ce rapport aux déchets? Et Lacan, il n'arrive pas à le dire, mais il le dira 10 ans plus tard. Là encore, il nous dit les lettres de l'alphabet phénicien viennent des décorations, des amphores cassées qu'on retrouve en Méditerranée. C'est, ça servait au commerce de l'huile. Et ce discours est tombé en désuétude. C'était un lien social, le commerce de l'huile. Le discours tombe en désuétude. Il y a des restes. Et vous avez quoi? Ben, vous avez des gens qui reprennent ces restes et qui en font des lettres. Donc, les noms propres sont des recyclages, les lettres sont des recyclages. Ça fait croire à certains que les noms propres ont un sens. Monsieur Smith n'est pas du tout forgeron. Et ça fait croire que les lettres, elles représentent quelque chose, elles ne représentent rien. Elles sont du matériel de recyclage. Ça ressemble à quelque chose qui a déjà servi et c'est nécessaire pour être mis en fonction. C'est ça qu'il faudrait beaucoup développer. Pourquoi est-ce que ça paraît nécessaire? Que ce soit des déchets, des restes, des ongles, des cheveux, des excrétions, il y a quelque chose comme ça de la saloperie qui fait partie du plus sublime au travers de notre langage et de l'écriture. Bon, voilà les questions qu'il faudrait poser, vous voyez. Et je vais finir en vous disant une chose. Si vous vous posez la question pourquoi Lacan étudie les nœuds, Lacan, il a fait le diagnostic suivant. Il a dit, bon, les nœuds, les mathématiciens de la mathématique classique et moderne, même la théorie des ensembles, ils ne feront jamais la théorie des nœuds. La théorie des nœuds, c'est un reste, c'est un relief, c'est un déchet du discours scientifique. Et Lacan, il fait top là, je prends le déchet, je le mets en fonction, je le fais fonctionner, et je propose aux psychanalystes une écriture à inventer, avec la pratique, hein, effectivement, pour écrire avec ses restes. Et comme ça, vous avez, ben, il faut l'inventer, voilà. Mais pour inventer une écriture pour la psychanalyse, il faut faire une analyse. Ça veut dire qu'il faut être dans l'effectivité du discours et de l'acte et de l'analyse. Bon. Mais ça, moi, je ne suis pas là pour redécerner des médailles. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça regarde chacun. Je sais que c'est difficile pour chacun. Mais ce n'est pas une affaire de misère. C'est pire. C'est pire. Et il faut inventer des vacances. Et comme dit Hegel, hein, prenez des vacances, reposez-vous, puis retournez à votre boulot. C'est ce qui vous rend malade qui va vous guérir. Bon. Et écrivez-le et essayez de faire passer ça en faisant quoi? Ben, pas des gesticulations. C'est pas la peine de faire de la pantomime. C'est déjà visible d'ailleurs, ça. C'est aussi de la lecture, de la caricature. C'est intéressant. Mais essayez de faire passer comme un mot d'esprit. Bon, et ben les nœuds, c'est fait pour faire des mots d'esprit, disons, qui sont lettrés avec ce trait qui s'appelle. Bon, vous voyez, ça, c'est juste des arcs. C'est des arcs. Il y a très peu. Il y a les croisements, les arcs, les zones. Il y a très peu d'éléments dans cette écriture des nœuds. Hein. Ben, moi, j'ai rajouté, j'ai glissé comme Cantor glisse les ensembles entre les nombres et les figures géométriques. Il glisse une écriture. Moi, j'ai rajouté les surfaces que Lacan a étudiées. Je les fais passer en travers des nœuds pour avoir une écriture un peu plus déterminée pour commencer. Hein. Et lisez mon petit article sur les mathématiques et la psychanalyse et les mathématiques, vous verrez que je montre que le théorème de Schall, enfin le type qui est précurseur du théorème de Schall, en ajoutant deux traits, hein, deux traits verticaux, un au-dessus des lettres et un en devant les couples de lettres, un signe moins, comme on dirait, eh bien il réussit à écrire avec une plus grande économie ce qui s'écrivait sans ces caractères-là. Ça veut dire que quand vous ajoutez les caractères, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, j'ai expliqué la semaine dernière comment les plis étaient quelque chose de réel. Mais grâce à l'écriture des croisements, que j'ai montré la semaine dernière, et en ajoutant des traits distinctifs dans les croisements, on a la caractéristique ou la torsion du croisement, mais en plus on peut lire enfin d'une manière orientée le croisement. Si vous ajoutez rien, vous n'aurez jamais l'orientation. Donc ajoutez mais pas trop. Vous voyez, c'est une question de dosage. Il faut ajouter des trucs, mais pas trop. Et puis, si vous en ajoutez trop, vous voyez que vous écrasez le machin, alors vous en retirez un peu. C'est une question de style. Voilà, j'arrête là. Alors, ah oui, vous pouvez le cours est en un petit peu de la mouture, si vous voulez.